quelque chose d'inattendu se passa. Mitya n'aurait jamais cru qu'on osât le traiter de la sorte, lui, Dmitri Karamazov. On lui ordonna de se déshabiller complètement. Il obéit par orgueil, avec dégoût. Outre le juge et le procureur, quelques moudjiks avaient suivi Mitya derrière les rideaux. « Faudra-t-il ôter même ma chemise ?» demanda-t-il sèchement à Nikolaï Parfianovitch. Le juge ne répondit pas, tant il était intéressé par l'examen des habits. « Je vous demande pour la seconde fois s'il faut ôter ma chemise, oui ou non ?» répéta Mitya. « Ne vous inquiétez pas, nous vous informerons à temps, » dit Nikolaï Parfianovitch, d'un ton qui parut impérieux à Mitya. Les juges causaient entre eux tout en palpant les habits, y cherchant de l'argent. « Comme s'ils avaient affaire à un voleur et non à un officier !» grommela Mitya. On prit note des taches de sang de la redingote. Permettez, s'écria tout à coup Nikolaï Parfianovitch en apercevant la manche de la chemise de Mitya tachée de sang et retroussée. Permettez, c'est du sang?
Du sang, oui.
Quel sang? Pourquoi votre manche est-elle retroussée? Mitya expliqua que Pierchtine lui avait conseillé de retrousser la manche de sa chemise. « Ah, il faut ôter aussi votre chemise, elle constitue une importante pièce à conviction. » Mitya rougit de rage. « Alors je vais rester tout nu. »« Ne vous inquiétez pas, nous arrangeons cela. Ayez aussi l'obligeance d'ôter vos chaussettes. »« Vous ne plaisantez pas, est-ce donc nécessaire ?»« Nous ne sommes pas ici pour plaisanter, » dit sévèrement Nikolaï Parfianovitch. « Eh bien, si c'est nécessaire, je... » murmura Mitya. Il s'assit sur le lit et se mit à retirer ses chaussettes. Il se sentait affreusement humilié, nu devant des gens vêtus. Chose étrange, nu, il se sentit comme coupable devant ces gens vêtus. Il se semblait à lui-même dégradé par le fait de sa nudité, dégradé, méprisable. « Il me semble que c'est un rêve, songeait-il. Oh, j'ai vu de telles choses dans mes cauchemars. » Il lui était particulièrement pénible d'ôter ses chaussettes. Elles n'étaient pas très propres. Son linge non plus n'était pas très propre. Et tout le monde l'avait vu. Surtout, il n'aimait pas lui-même la forme de ses pieds. Les orteils, on ne sait pourquoi, lui avaient toujours paru monstrueux. L'un, particulièrement, lui semblait mal fait, plat, l'ongle recourbé. Et tous le voyaient. Le sentiment de sa honte le rendit plus grossier. Il enleva violemment sa chemise. « Ne voudrez-vous pas chercher ailleurs encore? Vous n'êtes pas gens à vous effrayer pour si peu. » « Non, non, c'est inutile pour le moment. » « Alors, je vais rester comme cela, nu. »« Oui, c'est nécessaire. Veuillez, en attendant, vous asseoir ici. Enveloppez-vous avec une couverture du lit, et moi, je vais m'occuper tout de suite de cela. » Les juges sortirent, emportant les vêtements de Mitya, qui, sous la garde des moudjiks, resta là, grelottant sous sa couverture. Il n'avait pu couvrir ses pieds. « Comme il reste longtemps, » pensait-il en grinçant des dents, « il me traite comme un chien. » Sa colère redoubla quand il vit revenir Nikolaï Parfianovitch avec un moujik portant non pas les habits de Mitya comme il l'avait espéré, mais d'autres habits. « Voici des vêtements, » dit Nikolaï Parfianovitch. « C'est M. Kalganov qui vous les offre. » La chemise est propre. Il avait par bonheur tout cela dans sa malle. Quant à vos chaussettes, oh, vous pouvez les reprendre. Mais je ne veux pas des habits des autres, dit-il avec rage. Rendez-moi les miens. Ah, cela ne se peut. Ben donnez-moi les miens, vous dis-je, au diable Kalganov et ses habits. » On eut de la peine à lui faire entendre raison. Enfin, tant bien que mal, on réussit à lui faire comprendre que ses habits tachés de sang devaient être consignés parmi les pièces à conviction. Mitya, morne, se vêtit en silence. Il fit cependant remarquer que l'habit qu'on lui donnait était plus riche que le sien et ridiculement étroit. « Bon, me voilà mis comme un bouffon, êtes-vous content ?» On le pria de rentrer dans la salle. Il était sombre et évitait tous les regards, se sentant humilié par ses vêtements étrangers. Il reprit sa place en face des juges. « Maintenant, allez-vous me fouetter avec des verges ? Il ne vous reste plus que cela à faire, » dit-il au procureur. Il ne daignait plus adresser la parole à Nikolaï Parfenovitch. Il a trop minutieusement examiné mes chaussettes. Il les a même fait retourner, le vaurien, pour que tout le monde voie qu'elles sont sales. Maintenant, nous allons passer à l'interrogatoire des témoins, dit Nikolaï Parfenovitch, pour toute réponse à la question de Mitya. « Oui, » dit le procureur d'un air absorbé. « Nous avons fait, Dmitri Fyodorovitch, tout ce que nous avons pu dans votre intérêt, » reprit le juge. « Mais votre refus si net de nous expliquer l'origine de la somme dont vous étiez porteur nous a obligés. » « En quoi est votre bague ?» interrompit tout à coup Mitya, désignant une des bagues qui ornait la main de Nikolaï Parfenovitch. « Ma bague ? Oui, celle-ci, qui porte une pierre veinée, » insista Mitya, comme un enfant entêté. « C'est une topaze fumée ?» dit Nikolaï Parfenovitch en souriant. « Voulez-vous le veloter ?»« Non, gardez-la !» dit Mucia furieux. « Ne l'ôtez pas, c'est inutile. Au diable, messieurs !» Vous avez déchiré mon âme, mais croyez-vous vraiment que j'oserais mentir si j'avais tué mon père ? Mentir, non. Dmitri Fyodorovitch n'est pas de cette trempe. Si j'étais coupable, je vous jure que je n'aurais pas attendu votre arrivée, n'aurais pas attendu le lever du soleil pour me tuer, je le sens bien maintenant. 20 années me donneraient moins d'expérience que n'a fait cette seule nuit. Cette nuit maudite, aurais-je pu parler comme j'ai parlé ? Aurais-je pu vous regarder en face si j'étais un parricide ? Mais cette mort de Grigori, car je le croyais mort, a suffi pour me troubler. Pourtant, je ne craignais rien. Ce n'est pas de votre châtiment que j'ai peur, messieurs. Je n'avais pas peur, j'avais honte, honte. Et vous voudriez que pour vous, aveugle railleur, qui fouillez les faits comme les taupes fouillent la terre, je me couvrisse d'une honte nouvelle en vous révélant encore une de mes vilenies ? Je ne l'aurais pas fait, quand bien même cet aveu eût dû me dérober à vos soupçons. Non, mieux vaut le bagne. C'est celui qui a ouvert la porte de la maison de mon père, c'est celui-là qui a tué et qui a volé. « Qui est-ce ? Bon, je me perds dans les conjectures. Ce n'est pas Dmitri Karamazov, voilà tout ce que je puis vous dire. Et maintenant, laissez-moi. Envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, mais cessez de me torturer avec vos questions. Je me tais, allez appeler vos témoins. » Le procureur examinait de son regard froid le visage de Mitya. Tout à coup, il lui dit, du ton le plus calme, comme s'il s'agissait de choses toutes naturelles. « Nous avons reçu précisément à ce sujet une déposition très intéressante du vieux Grigori qui affirme que cette porte était déjà ouverte avant qu'il vous eût vu courir dans le jardin. » Mitya se leva vivement. « Mensonge, mensonge ! Il n'a pas pu voir cette porte ouverte car elle était fermée, il ment !» « Je dois vous répéter que sa déposition est très catégorique. Mais c'est faux, c'est faux. C'est une calomnie ou l'hallucination d'un fou. Sa blessure lui aura donné le délire et se sera imaginé cela. Mais il l'avait remarqué avant d'être blessé, au moment où il était descendu dans le jardin. Mais ce n'est pas vrai, cela ne se peut pas. C'est par méchanceté qu'il invente cela. Il n'a pas pu le voir. Je n'ai pas passé par cette porte, dit Mitya haletant. Le procureur se tourna vers Nikolaï Parfenovitch. Montrez donc. Connaissez-vous cet objet ? Dit Nikolaï Parfenovitch en montrant à Mitya une grande enveloppe vide et déchirée qui portait encore les trois cachets. Mitya la considéra avec stupéfaction. C'est l'enveloppe de mon père, murmura-t-il. Celle qui contenait les 3000. Ben, permettez, il doit y avoir une inscription à mon petit poulet. C'est cela, 3000, voyez-vous, 3000. Oui, certainement, nous le voyons, mais nous n'avons pas trouvé l'argent. L'enveloppe était à terre auprès du lit. Pendant quelques secondes, Mitya resta comme abasourdi. « Messieurs, c'est Smerdiakov !» cria-t-il tout à coup de toutes ses forces. « C'est lui qui a tué. C'est lui qui a volé. Lui seul savait où était cachée cette enveloppe. C'est lui, il n'y a pas de doute. Mais vous saviez aussi que cette enveloppe était cachée sous l'oreiller. Mais je ne l'ai jamais su. Je n'avais même jamais vu cette enveloppe. Je la vois aujourd'hui pour la première fois. Je ne la connaissais jusqu'ici que par le Smerdiakov. Lui seul savait où le vieillard la tenait cachée. Moi, je l'ignorais. Et pourtant, vous-même avez déposé tout à l'heure que l'enveloppe était cachée sous l'oreille du défunt, sous l'oreiller. Vous saviez donc où elle était. Ah, et nous l'avons notée, confirma Nikolaï Parfenovitch. Mais c'est une absurdité. Je ne le savais pas du tout. Peut-être d'ailleurs n'était-ce pas sous son oreiller. J'ai dû sans y prendre garde. Mais que dit Smerdiakov ? Vous l'avez interrogé, que dit-il ? C'est là l'important. J'ai dit cela exprès, je mentis sans y songer. Et maintenant, vous savez bien qu'on laisse échapper des mots comme cela sans intention. Je vous dis que Smerdiakov seul savait cela, lui seul. C'est lui qui m'en a parlé. Mais c'est lui, c'est incontestablement lui qui a tué. C'est clair comme le jour. Arrêtez-le le plus vite possible. C'est lui qui a tué pendant que Grigori était sans connaissance. C'est clair. Il a fait le signal et mon père lui a ouvert. Car il connaissait le signal, et sans le signal, mon père n'aurait pas ouvert. Vous oubliez encore, dit le procureur avec une visible satisfaction, qu'il était inutile de faire le signal, puisque la porte était déjà ouverte quand vous étiez encore dans le jardin. La porte, murmurait Mitya. Il considéra le procureur silencieusement, durant quelques secondes, puis il s'affaissa sur sa chaise. Tous se turent. « Oui, la porte, c'est fantastique. Dieu est contre moi, » reprit-il les yeux hagards. « Vous voyez, » dit le procureur, « jugez vous-même, Dmitri Fiodorovitch. D'un côté, cette porte ouverte par laquelle vous seriez sorti, des positions écrasantes pour vous. Et de l'autre côté, votre silence incompréhensible, obstiné, relativement à la provenance de votre argent, alors que 3 heures auparavant, vous aviez engagé vos pistolets pour 10 roubles. Tous ces éléments de preuve réunis vous permettent de comprendre vous-même à quelles conditions nous devions nous arrêter. Oh, ne dites pas que nous sommes des cyniques et froids ailleurs, incapable de comprendre les nobles élans de votre âme. Entrez dans notre rôle. Mitia éprouvait une dévotion indescriptible. Il pâlit. Très bien, s'écria-t-il tout à coup. Je vais vous dire où j'ai pris cet argent. Je vous dévoilerai ma honte afin que nous ne soyons ni vous ni moi coupables d'un mal pire. Et croyez, Dimitri Fedorovitch, s'empressa de dire Nikolaï Parfenovitch, que votre sincérité en cet instant peut diminuer de beaucoup le poids des charges qui pèsent sur vous, et même... À ce moment, le procureur toucha légèrement le juge sous la table. Nikolaï Parfenovitch s'arrêta. D'ailleurs, Mitia ne l'écoutait pas. Messieurs, commença-t-il avec émotion, cet argent, je le déclare, cet argent est à moi. Le procureur et le juge restaient bouche bée. Ils ne s'attendaient pas à cela. Comment à vous ? Fit Nikolaï Parfenovitch. Mais jusqu'à 5 heures du même jour, d'après votre propre aveu. Oh diable, c'est 5 heures du même jour, et mon propre aveu. Il ne s'agit plus de cela. Cet argent était à moi, c'est-à-dire que je l'avais volé. Pas à moi, en effet, mais volé par moi. Il y avait 1500 roubles, je les portais sur moi depuis longtemps. Mais d'où vous venait-il ? Je les portais sur ma poitrine, ici, suspendus, cousus dans un chiffon. Je les portais depuis tout un mois comme un palpable témoignage de mon ignominie. Mais à qui était cet argent que vous avez, enfin, que vous vous êtes approprié ? Vous alliez dire volé. Parlez donc franchement. D'ailleurs, je l'ai volé, en effet. Ce que vous traduisez élégamment par approprié. Je l'ai volé, mais c'est hier soir seulement que le vol est devenu définitif. Hier soir, mais vous venez de dire qu'il y a déjà un mois que vous vous l'êtes procuré. Oui, mais il ne venait pas de mon père. Il venait d'elle. Laissez-moi vous raconter, ne m'interrompez pas. Il m'est pénible. Voyez-vous, il y a un mois, Katerina Ivanovna Verskotseva, mon ancienne fiancée, m'appela. Vous la connaissez ? Comment donc ? Je sais que vous la connaissez, une âme noble, entre toutes, mais elle me hait depuis très longtemps, et non sans raison. Katerina Ivanovna ? Demanda Nikolaï Parfenovitch. Les juges s'étonnèrent. « Oh, ne jetez pas son nom dans le flot des noms vulgaires. Je suis un misérable d'oser vous parler d'elle. Oui, je voyais bien qu'elle me haïssait. Il y a longtemps, dès le premier jour, dès ce jour, chez moi, dans ma chambre. Mais assez, assez, vous n'êtes pas digne d'entendre cela, c'est inutile. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un mois, elle m'a remis 3000 roubles, en me priant de les envoyer à sa mère, qui vit à Moscou. Et moi, c'était précisément à cette heure fatale de ma vie quand je... Enfin, en un mot, quand je me suis épris d'une autre, d'elle de Grushenka. Je l'emmenais ici, à Mokroïe. Je dépensais avec elle la moitié de ces terribles roules, c'est-à-dire 1500. Mais l'autre moitié, je l'ai gardée sur moi. Eh bien, ce sont ces 1500 roubles que je portais sur ma poitrine comme une amulette. C'est hier que j'ai déchiré l'enveloppe et entamé la somme. Les 800 roubles qui restent sont maintenant entre vos mains, Nikolaï Parfenovitch. Permettez-moi, mais c'est 3000 et non pas 1500 roubles que vous avez dépensés ici il y a un mois. Tout le monde le sait. Qui, tout le monde ? Qui a quitté mon compte et mon argent ? Mais vous-même l'avez dit. Vous avez dit que vous aviez dépensé juste 3 000 roubles. C'est vrai, je l'ai dit à qui a voulu l'entendre. Et toute la ville l'a cru, tout le monde l'a répété. Mais je n'ai réellement dépensé que 1 500 roubles. Et voilà d'où vient cet argent. C'est presque un miracle, murmura Nikolaï Parfenovitch. N'avez-vous pas parlé de cela auparavant à quelqu'un ? Demanda le procureur. N'avez-vous dit à personne que vous aviez gardé 1 500 roubles ? Non, à personne. C'est étrange. Vraiment à personne. À personne, à personne, à personne. Mais pourquoi ce mutisme ? Qu'est-ce qui vous forçait à faire de cela un mystère ? Ce secret que vous vouliez si honteux n'est comparativement qu'une peccadille, car cette appropriation n'était pas définitive. D'ailleurs, la chose s'explique étant donné votre caractère. C'est une légèreté plutôt qu'une faute. Quoi qu'il en soit, vous n'aviez pas caché que l'argent dépensé ici fut celui de Madame Vershonskleva. Pourquoi donc donner cette allure de mystère au fait d'avoir gardé une partie de la somme ? Il est impossible de croire qu'une telle chose vous coûte tant à dire au point que vous écriez plutôt le bagne. Le procureur se tut. Il s'était échauffé, sans chercher à cacher son dépit, sans même s'occuper de soigner son style. Mais ce n'est pas dans les 1 500 roubles eux-mêmes que j'ai la honte, dit avec fermeté Mitya. C'est dans le fait d'avoir divisé la somme. Mais qu'est-ce que cela fait ? Décria le procureur avec irritation. Qu'y a-t-il de honteux dans le fait d'avoir divisé une somme volée ? Mais à propos, pourquoi aviez-vous fait cette division ? Dans quel but ? Pouvez-vous nous l'expliquer ? Oh, messieurs, mais c'est précisément dans ce but que j'ai toute l'affaire. J'ai fait cette division par calcul, par bassesse, car ici le calcul est une bassesse. Et cette bassesse a duré tout un mois. C'est incompréhensible. Vous m'étonnez. Du reste, je vais m'expliquer davantage. Peut-être, en effet, c'est incompréhensible. Suivez-moi bien. Je m'approprie 3 000 roubles confiés à mon honneur. Je fais la noce avec, je dépense toute la somme. Le matin, je vais chez elle et je lui dis « Katia, je suis coupable, j'ai dépensé les 3 000 roubles. » Est-ce bien cela ? Non, c'est malhonnête, c'est une faiblesse. Une sottise poussée jusqu'à la bestialité, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas un vol, vous devez en convenir. Ce n'est pas un vol proprement dit. J'ai gaspillé la somme, je ne l'ai pas volée. Mais voici mieux encore, suivez-moi toujours. J'ai peine à fixer mes idées, la tête me tourne. Je dépense 1 500 roubles seulement, c'est-à-dire la moitié du tout. Le lendemain, je vais chez elle, je lui rapporte l'autre moitié. Katia, je suis un vaurien, prends ces 1 500 roubles, car j'ai dépensé les autres, je suis capable d'en faire autant de ceci. Épargne-moi cette tentation. Dans ce cas, je suis tout ce que vous voudrez, un animal, un scélérat, mais pas un voleur, pas un voleur. Car un voleur, ce serait nécessairement approprier toute la somme. « Soit, il y a en effet une nuance, » approuva le procureur avec un froid sourire. « Il n'en est pas moins étrange que cette nuance devienne à nos yeux une différence aussi considérable. »« Eh bien, en effet, j'y vois une différence énorme, fatale. Tout le monde peut être malhonnête, et je crois qu'en effet tout le monde est malhonnête. Mais être un voleur, non !» Quoi qu'il en soit, le vol est le dernier degré de la malhonnêteté. Voyez, pendant tout un mois, je garde cet argent. Je puis du jour au lendemain me décider à le rendre, et dès lors, je cesse d'être un malhonnête homme. Mais je ne puis m'y décider, je ne cesse d'y penser, et je n'arrive pas à prendre un parti. Est-ce bien cela? Je n'admets pas que c'est tout à fait bien. D'ailleurs, coupons-là ces discussions sur ces subtilités. Venez au fait, je vous prie. Vous ne nous avez pas encore expliqué les motifs qui vous ont poussé à diviser en deux parts ces 3 000 roubles. À quoi vouliez-vous consacrer la part que vous gardiez? J'insiste là-dessus, non sans dessein, Dmitri Fiodorovitch. Oh oui, pardon de vous faire languir, car c'est là le principal, et vous allez bientôt comprendre que c'est le but même de mon action qui en fait la honte. Voyez-vous, le défunt ne cessait de tourmenter Agrafena Alexandrovna, et moi, jaloux, je croyais qu'elle hésitait entre lui et moi. Mais que serait-il arrivé si un jour elle m'avait dit « C'est toi que j'aime, emmène-moi au bout du monde. Je ne possédais pas 20 kopecks. Qu'aurais-je fait ? Car je ne la connaissais pas encore. Je croyais qu'il lui fallait de l'argent, qu'elle ne me pardonnerait pas ma pauvreté. Alors, de sang-froid, je compte la somme, j'en cache la moitié sous mon linge, et je vais faire la noce avec l'autre moitié. Comprenez-vous ? Avouez que c'est ignoble. » Les juges se mirent à rire. Mais il serait au contraire, d'après moi, très moral que vous n'eussiez pas dépensé toute la somme, que vous fussiez retenu à ce point, dit Nikolaï Parfenovitch. Mais qu'y a-t-il donc là de si grave? Mais alors, c'est un vol? Alors je suis effrayé de voir que vous ne me comprenez pas. Mais chaque jour, depuis que je portais ces 1 500 roubles sur ma poitrine, je me disais, mais tu es un voleur, tu es un voleur. Et cette pensée est l'origine de toutes mes violences pendant tout ce mois. C'est à cause d'elle que j'ai battu le capitaine dans le tractir et mon père chez lui. Je n'ai pas osé dévoiler ce secret à mon frère Alyosha lui-même, tant j'avais honte. Et pourtant, je songeais, je pourrais encore cesser d'être un voleur, je pourrais aller de demain rendre à Katia ses 400 roubles. Et c'est hier soir seulement que je me suis décidé à déchirer mon amulette. C'est alors seulement que je suis devenu un voleur accompli. Avez-vous enfin compris? Et pourquoi avez-vous pris cette décision hier seulement? Demanda Nikolaï Parfenovitch. Quelle question ridicule, mais parce que je m'étais condamné à mort, et qu'il m'était indifférent de mourir honnête ou malhonnête. Ce qui me faisait le plus souffrir cette nuit, ce n'était pas le souvenir de mon crime, quoique je crusse Grigori mort. Ce n'était pas la Sibérie, et cela au moment où mon amour allait être couronné. Sans doute j'en souffrais, mais pas autant que de cette pensée. Je suis désormais et à perpétuité un voleur. Oh, messieurs, j'ai beaucoup appris pendant cette nuit. J'ai appris que non seulement il est impossible de vivre avec ce sentiment qu'on est un malhonnête homme, mais encore ai-je appris qu'il est bien difficile de mourir avec ce sentiment-là. Oh non, oh, il faut pouvoir se rendre le témoignage qu'on est honnête, pour avoir le courage de bien mourir. Mitya était blême. Je commence à vous comprendre, Dmitri Fiodorovitch, dit le procureur avec sympathie. Mais tout cela, excusez-moi, tout cela vient des nerfs. Vous avez les nerfs malades. Pourquoi, par exemple, pour mettre fin à vos souffrances, n'êtes-vous pas allé rendre ces 1 500 roubles? Pourquoi ensuite n'avez-vous pas tenté une combinaison qui me semble toute naturelle? Vous auriez noblement fait l'aveu de votre faiblesse à cette personne et vous lui auriez demandé à elle-même la somme dont vous aviez besoin. Vu votre situation et surtout le noble cœur de cette dame, elle ne vous aurait certainement pas refusé. N'auriez-vous pas pu lui proposer les gages dont vous parliez à Madame Korchlakov ou au marchand Samsonov? Ne considérez-vous pas, maintenant encore, les garanties dont vous parliez alors comme bonnes et suffisantes? Mitya rougit de colère. Mais il est impossible que vous me disiez cela sérieusement. Me croyez-vous donc descendu si bas? Non, je parle très sérieusement, pourquoi? Mais c'est ignoble! Ah, messieurs, que vous me faites souffrir! Mais soit, lisez donc au fond de mon âme, et soyez-en honteux vous-même, car vous allez voir jusqu'où les sentiments humains peuvent descendre. Sachez donc, monsieur le procureur, que j'avais pensé à cette combinaison dont vous me parlez. J'étais résolu à aller chez Katia, tant j'étais malhonnête. Mais lui parler de ma trahison, lui demander à elle-même de l'argent et m'enfuir ensuite avec sa rivale qui l'avait offensée, voyons. Procureur, vous êtes fou! Fou, non, je n'ai pas tout d'abord pensé à cette jalousie de femme, si elle existait comme vous l'affirmez. Mais c'eût été une telle bassesse! S'écria Mitya en frappant sur la table, que c'eût été de se boucher le nez. Elle me l'aurait donné, cet argent, par vengeance, par mépris, car elle a aussi une âme infernale et de grande colère. Moi, j'aurais pris l'argent, oh certes, je l'aurais pris, et alors toute ma vie. Grand Dieu, pardonnez-moi, messieurs, de crier si fort, mais il n'y a pas longtemps que j'avais encore cette pensée relative à cette combinaison. Il y a 3 jours, hier encore, jusqu'à cet événement. Jusqu'à quel événement? Demanda Nikolaï Parfenovitch. Mitya n'entendit pas. Je vous ai fait un aveu terrible. Sachez l'apprécier, messieurs. Sachez-en le prix. Si vous n'êtes pas capable de me comprendre, je mourrais de honte d'avoir pu dévoiler de telles choses à de tels gens. Oh, je me tuerais. Et je vois déjà que vous ne me croyez pas. Comment? Vous voulez le noter? S'écria-t-il avec effroi. Mais oui, dit Nikolaï Parfenovitch, étonné. Nous notons que jusqu'à la dernière heure, vous pensiez à aller chez Madame Verkhovleva pour lui demander cette somme. Je vous assure que c'est là un point très important, Dmitri Fiodorovitch, pour nous et surtout pour vous. Mais voyons, messieurs, ayez la pudeur de ne pas inscrire au moins cela. J'ai déchiré devant vous mon âme en lambeaux. Vous abusez de ma confiance. Il se couvrit le visage de ses deux mains. « Ne vous inquiétez pas tant, dit Dmitri Fedorovitch, dit le procureur. On lira devant vous tout ce qu'on vient d'écrire et l'on fera au rapport tous les changements qu'il vous plaira. Permettez-moi pour l'instant de vous répéter pour la 3e fois une certaine question. Est-il bien vrai que vous n'ayez parlé à personne, absolument personne, de votre amulette? C'est bien incroyable. À personne, je vous l'ai dit, à personne. Cette question me prouve que vous ne m'avez pas compris. Oh, laissez-moi tranquille. Soit, mais réfléchissez. Nous avons peut-être des dizaines de témoins qui affirment vous avoir entendu dire à vous-même que vous avez dépensé 3 000 roubles et non pas 1 500. Et en revenant ici, vous avez déclaré que vous apportiez encore 3 000 roubles. Vous avez entre les mains des centaines de témoignages de ce genre, des milliers, cria Mitya. Vous le voyez, par conséquent, on est unanime sur ce point. Et c'est quelque chose qu'un témoignage unanime. Ce n'est rien du tout. J'ai menti et tous ont dit comme moi. Mais pourquoi avez-vous menti? Le diable sait pourquoi. Par vanité peut-être, que sais-je, par gloriole. Peut-être pour me faire oublier à moi-même l'argent que je gardais caché. Oui, précisément pour me faire oublier. Eh diable, combien de fois m'avez-vous déjà posé cette question? J'ai menti, voilà tout. Et parce que j'avais menti une fois, j'ai pas voulu me reprendre. Pourquoi ment-on? Mais c'est bien difficile à dire, Dmitri Fiodorovitch, répondit le procureur. Mais dites-moi, cette amulette, comme vous dites, faisait-elle un gros paquet? Non. Mais de quelle grandeur, par exemple? Un billet de 100 roubles, plié en deux, à peu près. Vous feriez mieux de nous montrer le chiffon qui entourait les billets. Vous l'avez probablement sur vous. Que diable! Quelle bêtise! Je ne sais pas où il est. Permettez, où avez-vous tiré le paquet de votre linge? Vous avez affirmé vous-même que vous n'êtes pas entré chez vous. Ben, c'est en route en allant chez Fenia, chez Perskotine. Dans l'obscurité? Pas trop besoin de lumière pour cela. J'ai eu bientôt fait de déchirer ce chiffon. Sans ciseaux, dans la rue. Sur la plage, je crois. Et qu'en avez-vous fait? Ben, j'ai jeté aussitôt. Où? Ben, sur la place, par là. Oh, le diable, c'est tout. Mais pourquoi cette question? C'est très important, Dmitri Fiodorovitch. Ce chiffon constituerait une pièce à conviction à votre décharge. Ne le comprenez-vous pas? Qui vous a aidé à le coude il y a un mois? Personne. Vous savez coudre? Un soldat doit savoir coudre. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en savoir long pour cela. Et où avez-vous pris ce chiffon? Vous voulez rire? Non pas, Dmitri Fiodorovitch. Ce n'est pas le moment de rire. Mais je ne me rappelle pas où. Il est pourtant facile de se rappeler ces détails. Je vous jure que je ne me rappelle pas. J'ai dû déchirer quelques linges. C'est pourtant très intéressant. On pourrait retrouver chez vous cet objet, cette chemise peut-être dont vous auriez coupé un morceau. En quoi était ce chiffon? En coton ou en fil? Diable sait. Attendez, il me semble que je n'ai rien déchiré. Oh, c'était du calicot. Je crois que j'avais pris le bonnet de ma logeuse. Le bonnet de votre logeuse? Eh oui, je lui ai chippé. Comment chippé? Oui, je me rappelle qu'un jour, je lui avais pris son bonnet pour essuyer une plume. Je lui avais pris en cachette. C'était un chiffon sans valeur. Et c'est dans cela que j'ai enveloppé l'argent, un vieux morceau de calicot, mille fois lavé. Vous êtes certain de ce souvenir? Oh, je sais pas, il me semble. Oh, puis d'ailleurs, je m'en moque. Dans ce cas, votre propriétaire pourrait peut-être avoir remarqué la disparition de cet objet. Non, elle ne l'a pas remarqué. C'est un vieux chiffon, vous dis-je. Un chiffon sans valeur. Et l'aiguille et le fil, où les aviez-vous pris? Ah, c'est, dit Mitya furieux. Je vois clairement que vous ne m'avez pas cru en rien. C'est ma faute, non la vôtre. Je n'aurais pas dû me laisser aller à ces épanchements, car vous vous moquez de moi. C'est vous, procureur, qui m'avez forcé à parler. Bourreau, soyez maudit. Mais il pencha la tête d'un air accablé. Les juges se taisaient. Un instant après, il se redressa. Ses yeux étaient d'un insensé. Son visage exprimait le désespoir. 7 heures du matin venaient de sonner. Les juges étaient fatigués. Mitya regardait sans penser à travers les vitres. Il pleuvait à verse. M'est-il permis de regarder par la fenêtre? demanda-t-il tout à coup à Nikolaï Parfianovitch. Oh, tant que vous voudrez. Mitya se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie battait les vitres ternies. On voyait la route boueuse, et plus loin, à travers le rideau brumeux de la pluie, les rangées d'isbas noires, pauvres, que le temps faisait paraître plus noirs et plus pauvres encore. Mitya se rappela le Phébus aux cheveux d'or, qui devait, par ses premiers rayons, lui donner le signal du suicide. Peut-être serait-ce mieux encore par une pareille matinée. Il sourit amèrement et se retourna vers ses bourreaux. « Messieurs, s'écria-t-il, je vois bien que je suis perdu, mais elle, dites-moi, je vous en supplie, est-elle compromise avec moi ? Elle est innocente, elle ne savait pas ce qu'elle disait quand elle criait que c'était elle qui avait tout fait. Ne voulez-vous pas me dire ce que vous ferez d'elle ? Tranquillisez-vous à ce propos, Dmitri Fyodorovitch, s'empressa de dire le procureur. Nous n'avons pour le moment aucun motif pour inquiéter en rien la personne qui vous intéresse tant. Ultérieurement, je ne vois rien qui puisse changer nos dispositions à son égard. Nous ferons d'ailleurs en sa faveur tout ce que nous pourrons. Messieurs, bon, je vous remercie. Je savais malgré tout que vous êtes honnête et juste. Vous m'ôtez un lourd fardeau de l'âme. Qu'exigez-vous de moi maintenant? Je suis prêt. Bien, nous allons passer à l'interrogatoire des témoins devant vous. Et si nous prenions du thé, interrompit Nikolaï Parfianovitch. Oh, nous l'avons bien mérité, je crois. On apporta du thé. Mitya, qui avait d'abord refusé la tasse que lui offrait Nikolaï Parfianovitch, la prit ensuite de lui-même et but avec avidité. Il était exténué. Encore un peu, pensait-il, je perdrai la raison. L'interrogatoire des témoins commença. Le point sur lequel Nikolaï Parfianovitch attirait particulièrement l'attention des témoins était celui de savoir si, chaque fois qu'il était venu à Mokroïe, Dmitri Fyodorovitch avait dépensé 3 000 ou 1 500 roubles. Il est inutile de dire que tous les témoignages démentaient l'affirmation de Mitya. Pendant tout ce temps, Mitya restait silencieux et sa physionomie exprimait la plus complète indifférence. Après avoir interrogé Trifan Mosirich, le Yamskikt Andrei Kalganov et quelques moujiks, on en vint à l'interrogatoire des Polonais. Le pan à la pipe, qui déclara s'appeler Moussialovitch, venant à parler de ses relations avec Grushenka, étala tant de vanité, tant de fatuité, que Mitya bondit et lui cria « Misérable !» Moussialovitch demanda aussitôt qu'on prît note de cette injure. « Eh bien, misérable, misérable, notez-le tant que vous y pourra. Vous m'empêcherez pas de répéter qu'il est un misérable. » Nikolaï Parfianovitch essaya de calmer Mitya et cessa d'interroger le Polonais sur ses relations avec Grushenka. Ce qui intéressa le plus les juges dans la déposition du pan, ce fut la somme de 3 000 roubles que Mitya lui avait proposée pour renoncer à Grushenka, lui en offrant 700 tout de suite et le reste le lendemain. À la question du procureur, où Mitya pensait se procurer ces 2 300 roubles, Mitya répondit d'abord en niant le fait, puis se reprit et dit qu'il avait pu dire cela dans l'exaltation de l'instant, comptant s'acquitter au moyen d'un acte par devant notaire, un acte de renonciation à ses biens de Thierry Marchnia, comme il l'avait déjà proposé à Samsonov et à Mlakholakov. Vous pensez qu'il se serait contenté de cette renonciation ? Demanda le procureur avec un sourire ironique. Certainement, car il y aurait gagné non seulement 2 000 roubles, mais 4 000, mais 6 000 peut-être. Il n'aurait eu qu'à mettre en mouvement tous les hommes d'affaires polonais, ses amis et les juifs. Ils auraient extorqué du vieillard des sommes considérables. On consigna soigneusement ces détails, mais on omit de noter que les Polonais avaient triché au jeu, comme l'on en avait pourtant accusé Trifon Borisic. Vint le tour de Maximov. Nikolaï Parfenovitch lui demanda directement combien d'argent il pensait que Dmitri Fedorovitch avait entre les mains. 20 000 roubles, répondit Maximov d'un ton décidé. Avez-vous jamais vu auparavant 20 000 roubles? Demanda Nikolaï Parfenovitch en souriant. Comment donc? Mais certainement. Pas 20 000 roubles, mais 7 000, quand mon épouse engagea ma propriété. Il est vrai qu'elle ne me laissait la voir que de loin. C'était une forte liasse de billets de 100 roubles. Dmitri Fedorovitch avait aussi des billets de 100 roubles. On passa à l'interrogatoire de Grushenka. Mikhail Makarovitch l'avait amené lui-même. Elle était calme comme rigide. Elle s'assit sur la chaise que lui indiqua Nikolaï Parfenovitch. Elle semblait avoir froid et se pelotonnait dans un beau chalot noir. Elle produisit sur les juges une très bonne impression. En entrant, elle avait jeté sur Mitya un regard furtif. Mitya lui avait répondu par un regard d'inquiétude, mais s'était aussitôt tranquillisé. Après les questions d'usage, Nikolaï Parfenovitch lui demanda quelles étaient ses relations avec le lieutenant en retraite Dmitri Fedorovitch Karamassov. « C'est mon ami. » Elle expliqua avec franchise que par moments il lui avait plu, mais que jusqu'à ce jour elle ne l'avait jamais aimé et qu'elle ne l'avait séduit que par méchanceté, comme son père Fyodor Pavlovitch. D'ailleurs, depuis un mois, je ne m'occupais guère d'eux. J'attendais un autre homme, coupable envers moi. Mais je crois inutile de vous parler de cela, c'est une affaire particulière. Le juge posa aussitôt la question qui l'intéressa tant. Combien Dmitri Fedorovitch avait-il d'argent? À quoi Grushenka répondit qu'elle n'avait pas compté elle-même les billets, mais qu'elle avait souvent entendu Dmitri dire qu'il avait 3 000 roubles. Mais n'avez-vous pas aussi entendu dire, au moins une fois, qu'il avait à son premier voyage ici dépensé non pas 3 000 roubles, mais une somme moindre, et qu'il avait caché le reste? Demanda le procureur. Non, jamais. N'a-t-il jamais dit devant vous, demanda tout à coup Nikolaï Parfenovitch, qu'il avait l'intention d'attenter au jour de son père? Oui, dit Grushenka en soupirant, je l'ai entendu. Une fois ou plusieurs? Oh, plusieurs fois, mais toujours dans des accès de colère. Croyez-vous qu'il donnerait suite à ce projet? Oh non, jamais, dit-elle avec fermeté. Messieurs, un instant, s'écria tout à coup Mitya. Me permettez-vous de dire en votre présence un mot seulement à Grafiana Alexandrovna? Mais en fait, Agrafeona Alexandrovna, dit Mitya en se levant, crois en Dieu et en moi. Je n'ai pas versé le sang de mon père. Mitya s'assit de nouveau. Grushenka se leva, fit pieusement un signe de croix devant l'icône. Que Dieu soit loué, dit-elle d'une voix chaude et pénétrante. Puis, s'adressant à Nikolaï Parfenovitch, elle ajouta « Croyez ce qu'il dit, je le connais. Il peut, par entêtement, dire je ne sais quoi, mais il ne parle jamais contre sa conscience. Croyez-le, quand il affirme qu'il dit vrai. » Merci, Agrafena Alexandrovna, tu as relevé mon âme, dit d'une voix vibrante Mitya. Nikolaï Parfenovitch dit à Grushenka que l'interrogatoire était fini, qu'elle était libre, et que s'il pouvait lui être agréable en quelque chose, soit en lui procurant des chevaux, soit en l'accompagnant, il était à sa disposition. Merci, dit Grushenka en le saluant. Je partirai avec le pomirchik Maximov. Mais si vous le permettez, j'attendrai de savoir ce que vous aurez décidé au sujet de Dmitri Fyodorovitch. Elle sortit. L'interrogatoire des témoins était fini. Mitya se leva et se coucha derrière les rideaux, sur une grande malle recouverte d'un tapis, et il s'endormit aussitôt. Il eut un rêve étrange, sans rapport avec l'heure et le lieu. Il voyageait dans les steppes, dans un pays qu'il avait jadis traversé avec son régiment. Un moujik le conduisait à travers l'étendue boueuse. Il fait froid, on est au premier jour de novembre, la neige tombe à gros flocons fondus aussitôt que tombée. Le moujik fouette ses chevaux avec énergie. Il porte une longue barbe rousse. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un cafetan gris. Ils aperçoivent un hameau, de noirs, très noirs isbas demi-brûlés. Ce ne sont que poutres enfumées et débris de toutes sortes. Sur la route, à l'entrée du village, une foule de babas, toutes maigres, affamées, au visage tanné. Une entre autres, osseuse, haute, de taille qui paraît 40 ans, peut-être n'en a-t-elle que 20. Sa figure est longue et massiée. Elle porte sur ses bras un petit enfant qui pleure. Ses seins sont probablement taris. Il semble desséché et l'enfant pleure, pleure toujours, tendant ses petits bras nus, ses petits poings bleus de froid. Et pourquoi pleure-t-il ? Demande Mitya en passant au grand galop de ses chevaux. Ben c'est le petiot, répond le yamchik. C'est le petiot qui pleure. Et Mitya s'étonne que le moujik ait dit le petiot et non pas le petit. Cela lui plaît, cela lui semble plus miséricordieux. Mais pourquoi pleure-t-il ? S'entête à demander Mitya, pourquoi ses petits bras sont-ils nus? Pourquoi ne le couvre-t-on pas? Oui, il a froid, le petiot, mais le froid percerait ses langes. C'est pourquoi il est inutile de le couvrir. Comment cela? Demande Mitya sottement. Mais ils sont pauvres, leurs isbas sont brûlés. Ils manquent de pain. Et, répète Mitya comme s'il ne comprenait pas, pourquoi les isbas ont-elles brûlé? Pourquoi toute cette misère? Pourquoi le petiot est-il pauvre? Pourquoi la steppe est-elle aride? Pourquoi ne tombe-t-il pas dans les bras les uns des autres? Pourquoi ne chante-t-il pas les chansons joyeuses? Pourquoi sont-ils si noirs? Et pourquoi ne donne-t-on pas à manger au petiot? Il sent bien que ces questions sont ridicules. Il insiste pourtant, et il sent aussi qu'il a raison d'insister, et il sent encore qu'un attendrissement le gagne, qu'il va pleurer, qu'il voudrait consoler le petiot et sa mère aux mamelles taries, qu'il voudrait consoler tout le monde tout de suite, sans compter, selon sa nature de Karamazov. « Je suis avec toi, je ne te quitterai plus, » lui dit tout à coup Grushenka. Son cœur s'embrase, il s'élance vers une lumière qui vibre au loin. Il voudrait vivre, marcher dans ce chemin que voici, large, sûr, et qui mène à cette lumière lointaine, cette lumière qui l'appelle. « Quoi, où ? » s'écrie-t-il en ouvrant les yeux. Et il se dresse sur son séant, un sourire serein détend son visage. Nikolaï Parfenovitch était là, qui priait Mitya de lire et de signer le libellé des dépositions. À ce moment, Mitya s'aperçut qu'on avait, pendant son sommeil, glissé un oreiller sous sa tête. « Qui a mis cet oreiller ? » s'écria-t-il avec exaltation. « Qui a eu tant de bonté ?» On eût dit que cette attention avait pour lui la valeur d'un réel bienfait. Il s'approcha de la table et déclara qu'il était prêt à signer tout ce qu'on voudrait. « J'ai eu un beau rêve, messieurs, » dit-il d'une voix étrange. Quand Mitya eut signé, on lui apprit qu'il était désormais en état d'arrestation et qu'on allait le ramener à la ville et le mettre en prison. Mitya leva les épaules. « C'est bien, messieurs, je ne vous en veux pas, je suis prêt. Je comprends très bien que vous faites votre devoir. Mais attendez, messieurs, nous sommes tous mauvais. C'est à cause de nous que pleurent les mères et les enfants qu'elles portent dans leurs bras. Qu'il soit entendu que je suis le pire de tous. Chaque jour de ma vie, je me jurais de me corriger, et chaque jour me voyais faire les mêmes actions infâmes. Je comprends maintenant qu'il faut aux êtres tels que moi les coups de foudre de la destinée et son lasso, une force extérieure qui les maîtrise. Jamais de moi-même je n'aurais pu me corriger, me relever. La foudre a éclaté, j'accepte. J'accepte les tortures de l'accusation, la honte publique. Je vais souffrir et me racheter par la souffrance. Croyez-vous que je parviendrai à me racheter, là ? Entendez-moi pourtant pour la dernière fois. Je n'ai pas versé le sang de mon père. J'accepte le châtiment. Non pas parce que j'ai tué, mais parce que j'ai voulu tuer. Et peut-être aurais-je tué. Je n'en suis pas moins résolu à lutter contre vous, je vous en avertis. Je lutterai jusqu'au bout et ensuite à la grâce de Dieu. Adieu, messieurs, ne m'en veuillez pas pour mes violences au cours de l'interrogatoire. Je n'avais pas alors toute ma conscience. Dans un instant, je serai un prisonnier. Que pour la dernière fois, Dmitri Karamazov, comme un homme libre, vous tende encore la main. En vous disant adieu, je prends congé du monde entier. » Sa voix tremblait. Il tendit la main à Nikolaï Parfenovitch, qui d'un geste convulsif cacha la sienne. Mitya s'en aperçut et tressaillit. Il laissa retomber son bras. « L'instruction n'est pas encore terminée, » dit le juge un peu confus. « Elle va se continuer à la ville. Je souhaite qu'elle tourne à votre justification. En ce qui me concerne personnellement, Dmitri Fyodorovitch, je vous ai toujours considéré comme plus malheureux que coupable. Tous ici, et j'espère n'être démenti par personne, nous sommes disposés à voir en vous un homme noble au fond, mais hélas, entraîné par ses passions à des actes excessifs. » Le petit juge prononça ces derniers mots d'un ton très solennel. « Messieurs, vous êtes bons humains. Voulez-vous me la laisser revoir ? Lui dire un dernier adieu ? Sans doute, mais en notre présence, soit. » On amena Grushenka. L'adieu fut court, Ils parlèrent peu, au grand regret de Nikolaï Parfenovitch. Rouchenka fit à Mitya un profond salut. « Je t'ai dit que je suis à toi, que je t'appartiens pour toujours, que je te suivrai partout où l'on t'enverra. Adieu, toi qui souffres injustement. » Ses lèvres frémissaient, elle pleurait. « Pardonne-moi, Grouchka, de t'aimer, mon amour, te fait tant souffrir. » Il voulait parler encore, mais il se tut et sortit. Aussitôt s'empressèrent autour de lui des gens qui ne le perdaient pas de vue. Deux télègues attendaient au bas du perron. Près de la porte cochère, s'étaient amassés des bougiques et des babas pour le regarder passer. « Adieu, genre de Dieu, pardonnez-moi !» leur cria Mitya, déjà monté en télègue. « Pardonne-nous toi-même !» lui répondirent deux ou trois voix. Les télègues s'ébranlèrent, la sonnette tinta, Mitya était parti.